Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. La librairie Mola nous fait l'amitié de nous permettre de nous voir, de nous réunir. Je me propose, si vous en êtes d'accord, de vous faire un petit exposé sur pourquoi j'ai écrit ce livre, Le goût du risque à l'adolescence, quel sens ça peut avoir. Alors, le goût du risque à l'adolescence, peut-être il faut tout de suite quand même préciser que bien sûr, il ne peut pas y avoir de vie sans risque. Ça fait partie complètement de la vie. Et pour s'en souvenir, pour se rappeler que la vie est risquée, en quelque sorte, il faut se souvenir que le mot risque vient d'un mot latin, qui est le mot riscus, bon mais ça, ok, d'accord, qui est une contraction d'un autre mot latin qui est resecus, qui s'applique à l'écueil, l'éperon rocheux qui affleure à la surface de l'eau et qui est susceptible d'ouvrir le ventre d'un navire. Donc, le meilleur synonyme de risque, en réalité, ça devrait être écueil, récif. D'ailleurs, ce verbe latin, resecus, a donné en français le verbe chirurgical resequer, qui est utilisé en médecine pour dire le geste qui consiste avec la lame d'un scalpel à séparer les différents tissus d'un organe pendant l'opération. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une côte rocheuse sans écueil? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut dynamiter les écueils pour faire de la place et faire en sorte qu'il n'y ait plus de danger? Bien sûr que non, parce que l'opération qui consisterait à dynamiter des éperons rocheux en créerait par la même occasion d'autres. Donc c'est absolument illusoire. Du coup, c'est très tentant quand on voit un peu l'écume autour d'un écueil d'aller voir de plus près à quoi il ressemble. Et donc on a tous fait ça quand on était adolescent, enfant et adolescent, on a envie d'aller voir un peu plus près à quoi ressemble l'écueil. Et c'est le rôle des adultes, des parents, mais pas seulement des parents, des adultes qui ont en charge les jeunes, de signaler les écueils les plus dangereux, là où il y a les remous les plus problématiques, en mettant des phares, des balises, pour faire la signalisation qui existe dans la marine. Alors vous allez me dire, mais de quoi il vient nous parler, des écueils, de la marine, etc. Ben oui, parce que ce que j'essaie de défendre comme idée dans mon livre, si vous voulez, c'est que la pensée humaine opère toujours par métaphore. C'est-à-dire qu'on se représente en fait les choses. On peut échanger dès lors qu'on partage des images qui peuvent nous être communes. Et le fait est que circuler parmi les écueils de la vie, ça s'apparente à une forme de navigation et on est, en tant qu'adulte, chargé justement de faire en sorte, non pas d'interdire la navigation à nos jeunes, on ne va pas leur dire « restez au port parce qu'il y a des écueils, c'est trop dangereux », parce que si on faisait ça, bien entendu, ils s'échapperaient pendant la nuit pour aller naviguer tout seul et pour le coup, ils le feraient sans peut-être faire attention aux balises. Et si, au contraire, on leur laissait absolument tout faire n'importe comment, eh bien, certains se mettraient sans doute trop en danger, et c'est, on le verra tout à l'heure, le cas malheureusement pour un certain nombre de jeunes gens. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Quel est le souci de notre société? Eh bien, si on continue à filer la métaphore maritime, c'est un peu comme si, dans notre société moderne, nous qui aimons tous nos enfants, que dans la plupart des cas, on a désirés, ils ne sont pas arrivés par, entre guillemets, accident ou par hasard, ils sont venus parce que pour la plupart, on a décidé de les avoir. On n'en fait pas beaucoup, donc leur prix affectif augmente. On y fait donc très attention, mais quand je dis cette expression-là, on y fait très attention comme si c'était des objets d'amour et donc des objets tout court, qu'on cherche un peu trop à coucouner, à protéger par devers eux. Alors, ça donne quoi par rapport à la métaphore maritime? Ça donne Le jeune est au port, il aurait bien envie d'embarquer pour aller faire un tour au large. Et on arrive sur le quai, on lui dit, mais tu sais, c'est pas la peine, on va te raconter comment c'est, le large. Tu vois, ben, y a des vagues. Alors imaginez, et tu entendras les cris des mouettes, et puis si tu as de la chance, tu verras peut-être sauter des poissons argentés. Et on va donc s'employer à essayer de lui décrire ce qu'il n'ira pas voir parce qu'on a trop peur qu'il lui arrive malheur. Et ça, c'est un vrai souci sociétal qui est de coucouner beaucoup trop nos enfants sans leur apprendre à gérer le danger. On les enveloppe, on les coucoune, on les surprotège. Alors là encore, regardez les métaphores, dès tout petit. Quand ils sont tout petits, on a tellement peur qu'ils attrapent mal aux oreilles qu'on leur met des cagoules, on leur met des moufles. Vous voyez, on est sans arrêt auprès d'eux pour les protéger par devers eux. Et du coup, quand ils sont tout petits, ils se laissent faire. Mais dès qu'ils commencent à grandir, ils n'ont plus envie d'être coucounés comme ça. Et ils ont un slogan qui est le suivant. Ils disent aux parents et aux adultes, deux points, ouvrez les guillemets, lâchez-nous, arrêtez d'être sur nous, mais point de suspension, et ça ils le disent pas, mais il faut le savoir, mais ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas, car bien entendu, ils n'ont pas envie non plus qu'on leur laisse faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça le paradoxe, voyez-vous, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, soit on les couve, on les surcouvre en les empêchant de faire des expériences, soit on les lâche complètement. Et là, par contre, ils s'exposent à tous les dangers. Et c'est un peu ce qui se passe les soirs de week-end. Vous voyez, pour beaucoup de nos enfants, même si ce n'est pas du tout des adolescents forcément en difficulté, toute la semaine, la première partie de la semaine, du lundi au jeudi, ils sont en mode, comme ils disent, on est en mode prise de tête. Parce qu'il y a l'école, il y a les devoirs, il y a les parents, il y a les conflits parentaux, il y a les conflits familiaux, enfin, prise de tête. Et à partir du jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, ben, c'est plutôt en mode lâchage, mais un lâchage, pour le coup, qui est, on le verra tout à l'heure, parfois très dangereux, y compris pour des adolescents qui ne sont pas du tout des adolescents en grande souffrance. Mais les quantités d'alcool et éventuellement de cannabis qu'ils ingurgitent, s'interrogent quand même sur cette espèce de paradoxe qu'il y a entre les surcoucouner d'un côté et les lâcher complètement de l'autre jusqu'à 5 heures du matin, complètement ivres, titubant dans la ville. Ça, c'est un problème. Et si vous voulez, l'observation que je voulais vous faire à cette occasion, c'est vous dire que si l'adolescent manifeste de plus en plus tôt son désir d'autonomie, de faire ses expériences, de tester les limites, etc., il faut avoir en tête que l'adolescence d'un jeune se construit dès la petite enfance. Ça veut dire que dès qu'ils sont tout petits, en fait, il faut pouvoir leur définir des espaces d'évolution dans lesquels on les laisse prendre des risques, mais des risques qui sont mesurés. Alors, je vous donne quelques exemples prélevés dans la vie quotidienne, si vous voulez. On ne pourra jamais apprendre à nager sur une chaise. Vous pouvez apprendre les mouvements de la brasse à un enfant, vous pouvez lui dire, voilà, regarde, mets-toi sur le ventre, sur la chaise, tiens en équilibre, essaye de faire les mouvements, il pourra le faire, mais il ne saura pas nager en réalité, tant qu'il n'a pas fait l'expérience d'être dans l'eau. Et dans l'eau, on ne va pas le laisser dans le petit bain tout le temps, parce que comme tous les petits enfants, et je l'ai fait moi-même, quand on ne sait pas encore nager, on s'accroupit dans l'eau, on fait les mouvements avec les bras. Et en réalité, on marche dans le petit bain. Il y a un moment donné où il faut être lâché dans le grand bain, mais lâché entre guillemets, c'est-à-dire que normalement, il y a le maître nageur qui a une perche à quelques 1 mètre de nos mains et qui est là pour parer, nous garder si jamais, en effet, on paniquait dans l'eau et qu'on se noie. Il ne s'agit pas donc de laisser les enfants se noyer, mais il s'agit quand même d'accepter de les mettre dans le grand bain. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, ça vous paraît peut-être caricatural, mais justement, beaucoup de parents disent non, non, mais non, non. Le grand bain, c'est trop dangereux. Pourquoi est-ce qu'on fait le grand bain? Il n'y a qu'à faire, simplement, ils peuvent nager dans 1,50 m. Enfin, ça ne va pas. On ne veut pas qu'ils construisent de cabanes, parce qu'on a peur qu'ils se mettent des échardes. On ne veut pas qu'ils grimpent dans les arbres, parce qu'on a peur qu'ils tombent. On a peur qu'ils courent dans la cour, parce qu'ils vont tomber, vont se faire mal, et ainsi de suite. Et ce faisant, si vous voulez, eh bien, on croit les protéger, et en réalité, on les prive d'expériences structurantes qui leur permettraient à eux, justement, plus tard, de faire attention au danger. Un enfant qui n'est pas tombé sur ses genoux sur des cailloux ne sait pas encore ce que c'est que de trébucher. Et si on ne le laisse pas faire, si on le met en laisse, ça existe, hein ? L'enfant tenu en laisse, pour pas qu'il tombe, bien le jour où il sera lâché, justement, le jour où il n'aura plus la laisse, il sera plus capable de prendre la mesure de ses gestes et peut-être il se fera ce jour-là très mal. Voyez-vous ? Donc ça, c'est très important de savoir que on ne peut pas s'ouvrir au monde sans faire des expériences. Et par définition, dans les expériences, il y a des ratages, il y a des essais, il y a des erreurs, et ça sert, normalement, justement, à mieux comprendre la vie, les choses de la vie, et cheminer ultérieurement. Ça, c'est donc une première chose. Alors, la deuxième chose, ben, c'est que, de toute façon, même si on accepte qu'ils construisent un peu des cabanes, qu'ils aillent un peu courir, qu'ils fassent un peu des choses comme ça quand ils sont enfants, on a tellement d'amour débordant pour eux qu'on voudrait les garder petits pour toujours. Vous voyez ? Les mamans parmi vous qui en sont encore à la Reine des Neiges ont beaucoup de chance, profitez-en parce que ça ne va pas durer, hein. La Reine des Neiges, là, maintenant, ça va jusqu'à 5 ans, 4 ans peut-être, et hop, là, après ça, on n'a plus du tout envie de ça. Et on voit bien aujourd'hui que dans notre société, il y a une contraction de la petite enfance et une dilatation de l'adolescence, parce que c'est un marché également commercial, en même temps qu'une nébuleuse pleine de d'us et coutumes, de mode. Et donc, les enfants sont aspirés de plus en plus tôt vers la planète adolescente. Dès qu'ils ont 7-8 ans, les jeunes filles, regardez la sortie des écoles, etc., elles ont envie d'avoir des looks, déjà, de petites jeunes filles. Là, tout à l'heure, j'ai été boire un verre, parce que j'avais chaud à la terrasse, là, à Gambetta. Il y avait 3 jeunes filles à côté de moi de 14 ans, lookés comme des petits mannequins de 20 ans, buvant de l'alcool, à 14 ans, hein. Parce que le pauvre garçon n'est pas capable de voir que ce sont des mineurs. Elles ont l'air majeures, parce qu'elles sont lookées comme des petites femmes, voyez. Et on le voit de plus en plus, c'est-à-dire il y a une contraction de l'enfance et une dilatation de l'adolescence, au niveau de l'entrée, mais au niveau de la sortie aussi. Hein. Les grands adolescents qui devraient être des jeunes adultes sont encore souvent des adolescents qui ont des comportements en fait adolescents. Alors qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? C'est ça, il faut vraiment que vous le percutiez parce que c'est hyper important. Ce n'est pas les jeunes versus les adultes. Les jeunes n'ont rien contre les adultes. Les jeunes disent pas « on veut plus d'adultes, ça nous embête les adultes ». Ils disent pas ça. Ils disent, pour des raisons qui nous échappent, avec les parents, pendant 5 ans, c'est pas la guerre, mais presque. C'est-à-dire que, pour des raisons qui, bien sûr, s'explique du point de vue de l'évolution psychologique. Il se trouve que l'adolescence, c'est aussi l'âge, même si aujourd'hui on le nie beaucoup, de la différence des sexes et des générations. Et à l'adolescence, on ne peut plus supporter facilement les bisous baveux de sa maman et les câlins oppressants de son papa, sans se raidir comme un chat qui a pas envie d'être caressé et avoir envie de dire « bas les pattes, va des rétro Satanas ». Alors c'est très cruel, on est d'accord. Et c'est vrai que pour les parents, c'est assez bouleversant parce que ça vient assez subitement. Je vous le dis pour les mamans qui sont là, qui ont des jeunes enfants, par exemple un jeune Mathieu qui aurait 11 ans, si vous lui faites un bisou dans le cou et qu'il l'accepte sans broncher, profitez-en. C'est qu'il accepte encore, il n'est pas encore un chat hérissé. Si il fait un geste dédaigneux, comme s'il voulait s'essuyer en disant à sa mère « arrête de me mouiller avec ta salive », c'est qu'il est devenu adolescent. Et ça va durer 5 ans à peu près. Alors c'est long, c'est douloureux, et c'est d'autant plus difficile et douloureux que au même moment où le jeune veut, réclame cette distance, cette espèce de prise de distance d'autonomie par rapport à ses parents, les parents constatent dans la glace les premiers signes tangibles de leur propre vieillissement. Et évidemment que ça ne fait pas du bien non plus. Du coup, il y a tous les composants qui vont rendre un peu explosives les relations à ce moment-là. Et c'est pour ça, et c'est, je vous encourage vraiment ça à le croire, si on veut aider les parents d'adolescents, c'est pas en leur apprenant à faire des bisous pas mouillés. Ils seront toujours mouillés, les bisous. Ou susceptibles d'être suspectés de l'être. Donc c'est pas ça qu'il faut faire pour aider les parents. C'est leur prendre leur progéniture de temps en temps et dire « Attends, vous allez prendre un week-end tranquille, on vous prend vos ados, et vous allez voir comme ça fait du bien aussi de ne pas avoir constamment des relations en friction. » Alors qui ça peut être? Qui fait ça? Ben les oncles, les tantes, les amis, quand ils ont des enfants du même âge, échangez vos enfants. Ce que Mathieu où Vanessa ne supporte pas à la maison avec ses parents, elle le trouvera enthousiasmant chez son oncle ou chez sa tante. Parce que c'est un autre adulte, parce qu'il n'y a pas ce problème d'incestualité sous-jacente, de truc qui fait que, voilà, entre parents et enfants, c'est forcément tendu pour ces raisons d'érotisation mal placée, si vous voulez, des relations. C'est comme ça. Une jeune fille, Vanessa, 14 ans, ne peut plus s'asseoir sur les genoux de son père parce que, voilà, c'est plus... Et puis, plus il s'efforcera de vouloir lui faire des câlins et des bisous, plus elle trouvera que c'est inadmissible, qu'elle a un père pédophile. Et il y en a qui mettent ça dans les trucs de classe. Profession du père pédophile. Alors, bien sûr, convoqué. Mais pourquoi... Mais non, mais parce qu'il veut me faire des bisous tout le temps. Bon, ben oui, mais non. Enfin, voyez. Hein. Donc... Il faut échanger les enfants et accepter de toute façon que, à l'adolescence, en famille, donc entre parents et enfants, l'adolescent ait envie de faire des pas de côté, absolument comme en danse. Il sait quelle est la ligne. La plupart du temps, tous les enfants d'aujourd'hui, tous ceux qu'on voit, nous, au centre Abadi, sont pour la très grande majorité très bien élevés, très bien éduqués, en réalité. Sur le plan éducatif, ils ont bien tout enregistré, ils ont bien tout compris. Mais à l'adolescence, ils n'ont plus envie d'obéir aveuglément parce que leur autre slogan, c'est « se soumettre, c'est se démettre ». Donc ils ne veulent pas être d'accord. Alors vous leur dites un truc, non. Vous leur dites le contraire, non. Ah bon, mais alors c'est quoi? Non. De toute façon, non. Parce que ce n'est pas possible de dire oui, parce que oui, ça veut dire je suis OK, et être OK, ça veut dire je suis collé à toi, et si je suis collé à toi, c'est comme le bisou baveux. Ça n'est pas possible. Donc ça, c'est très important. Il faut accepter cette espèce de truc qui fait que vous dites n'importe quoi. Non, il n'est pas d'accord. Il ou elle n'est pas d'accord. C'est comme ça avec les parents. Le pas de côté. Alors, le pas de côté qui va se manifester, ben oui, sous des formes diverses, ils sont plus d'accord, ils veulent pas, ils trouvent qu'on est trop vieux, que tout ce qu'on fait, c'est nul, tout, enfin, voilà. Et c'est bien sûr très attaquant, hein, ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine solidarité entre adultes, ce que notre société ne connaît plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les parents à supporter les vagues adolescentes, on dit aux parents, écoutez, débrouillez-vous, et si vous n'y arrivez pas, point de suspension, c'est l'air de dire, ben, vous êtes insuffisant, vous avez sûrement fait, vous avez des problèmes, vous ne savez pas faire. Enfin, on renvoie à ce moment-là beaucoup de parents sur leur incompétence, alors que, normalement, on devrait les aider à supporter l'adolescence de leur enfant. Je vous assure que le mot est important, le verbe supporter, dans tous les sens du terme. Parce que, bon, tant que l'ado fait des pas de côté, ça va. Comment est-ce qu'on sait que ce sont des pas de côté et pas plus que ça? Eh bien, on sait que ce sont des pas de côté en échangeant avec d'autres adultes pour prendre la mesure du pied. Je vous dis encore un truc maritime qui fait 33 cm en marine. Pour prendre la mesure du pied que fait son enfant. J'ai des exemples que je vois souvent avec les parents que je reçois. On leur dit, bon, quel est le principal problème, par exemple, à la maison, c'est quoi le principal problème? Il ne range rien dans sa chambre. Ok. Est-ce qu'il met ses shorts et ses chaussures dans le salon ou dans la salle à manger? Non, 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 non. Mais c'est dans sa chambre que c'est un vrai bazar. Bien ça, c'est un pas de côté. Si le bazar sort de la chambre et devient une sorte d'exportation sur les autres espaces de la maison, c'est une colonisation. Et là, on est au-delà du pas de côté. On est dans quelque chose qui est plus poussé. Et donc, on va utiliser un autre mot. C'est le grand écart. C'est plus le simple pas de côté. C'est le grand écart. Alors ça va être en termes d'heures de sortie, en termes d'usage des outils numériques. Moi, je vous conseille franchement un truc sur les outils numériques. Un, on ferme les portables à table. Tout le monde, on éteint le portable. Et on met les portables à charger la nuit, toute la famille, dans la cuisine, sur un socle commun, à 22h30 ou à 23h, sauf si on a un métier qui réclame une urgence. Tous les ados acceptent ce genre de mesure dès lors que leurs parents se l'appliquent à eux-mêmes. Ce qui ne va pas du tout, c'est que Vanessa soit interdite de portable la nuit, mais maman joue à Candy Crush au lit et papa au poker en ligne sur un ordi. Vous voyez, ça ne va pas. C'est un contre-message qui dit, toi on t'interdit mais nous on s'autorise. Il faut que les règles soient assez claires et partagées par rapport à ces abus, si vous voulez, que sont notamment l'usage du numérique, mais d'autres choses aussi. Je pense à la cigarette par exemple. Si on veut être d'un point de vue éducatif, cohérent par rapport à nos enfants à qui on veut du bien, en effet, on n'a pas envie qu'ils aient du mal, eh bien on déclare la maison comme un espace sans tabac et on s'interdit à soi-même ainsi qu'aux amis adultes qui viennent à la maison d'y consommer du tabac. Ça, ce sont des règles qui sont acceptables pour l'ado, vous voyez ? Ce qui ne va pas, c'est de lui dire « je t'interdis formellement de fumer ». Bon, ben, « je t'interdis formellement de fumer », ça va donner quoi ? Dehors, ça veut... la première occasion, il va demander à un ami une cigarette ou il va aller s'en acheter, parce que la valeur de l'interdit n'a pas suffisamment de sens et est vécue comme une soumission à un ordre qui, provisoirement, est jugé intolérable. C'est ça le problème, voyez-vous. On obtient des choses davantage quand on n'est pas les parents. Donc le grand écart, ça veut dire que là, on n'est plus dans le pas de côté. Tu devais rentrer à 1h du matin et elle est rentrée à 4h. Là, il y a souci. Parce que 4 heures, il n'y a pas de transport en commun, ça veut dire des déambulations nocturnes dans la ville, ça veut dire donc des expositions à des dangers. Voyez-vous? Mais trop! Car une jeune fille en short à 4 heures du matin dans les rues, désolé, c'est une jeune fille exposée à des dangers qu'elle ne mesure, elle, pas complètement. Et là, il faut vraiment mettre des limites, y compris d'ailleurs du point de vue vestimentaire. Et là encore, ce n'est pas les parents qui peuvent dire ça. Imaginez le parent qui dirait à sa fille Vanessa, écoute ma chérie, ton petit haut est un peu trop échancré et ton short est beaucoup trop court, ton papa va être dérangé à table. Imaginez ce que va dire Vanessa. Elle va dire, mais j'en ai rien à faire, il n'a qu'à pas regarder. C'est mon affaire, c'est mon corps, c'est mes affaires, vous me faites chier, dira-t-elle. Bon. Si moi, responsable du centre Abadie, je dis à une jeune fille, écoute, il faudrait te rhabiller un peu plus parce que là, ton petit haut est beaucoup trop échancré et le short est beaucoup trop minimaliste, donc il faut changer de tenue, elle me fait, ok. Alors d'un air de dire aussi, quel vieil imbécile, mais elle obtempère. Et elle est contenue. Et c'est ce que, à mon avis, devraient faire je le dis, hein, les principaux de collège. Mais oui, devraient être à l'entrée de leur établissement le matin, pour des tas de raisons, y compris de sécurité aujourd'hui, hein, qui sont tout à fait recevables, mais aussi pour dire, attendez, mademoiselle, là, vous ne rentrez pas comme ça, et monsieur, vous ne rentrez pas non plus en tongs en classe, parce qu'il y a des tenues pour la plage, et il faut. Voilà, il y a des tenues qu'il faut pouvoir respecter. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, parce que c'est ça, c'est les parents qui râlent, alors que les ados acceptent. Ils sont OK du moment qu'il y a une règle qui n'est pas une discrimination abusive en fonction de je ne sais quoi, de quel type de look, etc. C'est pas ça le problème, voyez-vous. C'est d'arriver à avoir une norme qui respecte les autres. Et c'est ça que peuvent très bien comprendre les adolescents. Comment on respecte l'autre. Donc, le grand écart, ben, c'est quand on exagère. Alors, ben, on exagère à travers notamment les heures, les usages, etc. Mais du grand écart, comme en danse, on n'est pas très loin de la déchirure. Là, c'est le mot-clé qui indique, là, par contre, gros souci. Déchirure, cassure, coupure, brisure, tous ces synonymes, vous allez les retrouver dans les excès que font les adolescents en souffrance. Cassure, à l'alcool. Se sont cassés, se sont déchirés. Vous voyez, les mots, eux-mêmes l'utilisent. Se déchirer les poignets, les avant-bras, en se scarifiant. Déchirer, casser sa scolarité en ne voulant plus rien faire, en multipliant l'absentéisme, voire la fugue, je me casse. Vous voyez comme les mots parlent d'eux-mêmes. Hein? Tous ces synonymes-là de la rupture indiquent qu'on est au-delà, bien au-delà du pas de côté. Au-delà du simple grand écart, on est dans une conduite à risque dont l'adolescent n'a pas forcément conscience, il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas, il le fait parce que ça ne va pas bien. Alors après, quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne va pas bien? Il faudra l'explorer. Ça pourra pas, c'est pas marqué sur sa tête, ni sur le comportement, mais ça veut dire que ça ne va pas bien. Si c'est ses amis qui y ramènent l'adolescent tous les week-ends complètement ivre à la maison, ça veut dire que cet adolescent-là a été plus loin que les autres. Il faudra s'interroger pour savoir pourquoi il va plus loin, pourquoi il finit toujours le nez dans son vomi. C'est quoi l'objectif conscient qu'il peut avoir et qu'est-ce qui peut expliquer ce désir de rupture? En règle générale, c'est pas du tout pour embêter les parents, vous avez bien conscience de ça. C'est pas pour faire ça. ces jeunes qui vont mal essaient, de manière plus ou moins adaptée et désespérée, de se soustraire à des idées noires, morbides, négatives, à des sentiments d'inexistence, de non-reconnaissance, de souffrance personnelle. Et ils essaient, parce que c'est naturel chez l'humain de toujours chercher des solutions quand on a des problèmes, comme ils n'arrivent pas à le parler, comme ils n'arrivent pas à le dire avec des mots, comme ils ont l'impression, à tort ou à raison, que quand ils expriment quelque chose à la maison, on ne va pas les entendre ou les comprendre, ils pratiquent la rupture en espérant secrètement que la rupture elle-même va mettre un terme à leur souffrance et aussi que, peut-être, des gens vont reconnaître leur rupture, mettre des mots dessus et les aider à exister autrement. C'est ça, si vous voulez, qui se passe dans la conduite. Donc, il ne faut pas dire à l'adolescent qu'on a retrouvé en coma éthylique, le nez dans son vomi, tu vois le mal que tu fais à ta mère, tu te rends compte, la pauvre qui t'élève toute seule, etc. Ça, c'est un jugement de valeur, c'est une attaque qui ne pourra conduire qu'à un refus de dialogue, à un refus d'en parler. Plus on lui dira d'arrêter de faire ça parce que ça fait du mal aux gens, parce que c'est pas bien, parce que etc., plus il aura le sentiment d'être incompris. Il faut par contre faire part de l'inquiétude que suscite en nous ce comportement, mettre un mot sur cette inquiétude-là et le dire à l'adolescent qui se sentira reconnu. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où, quand arrivent des jeunes gens au centre Abadi, et qu'ils disent qu'ils ont pris trop de cachets, quand on leur dit « ça s'appelle pour nous une tentative de suicide », ils sont soulagés. Vous voyez, ils ne se sentent pas accusés, se sentent reconnus à travers un acte qui, en effet, peut-être qu'ils n'en ont pas complètement eu conscience, mais qui s'appelle quand même une tentative de suicide. Quand on avale trop de cachets, on prend le risque de mourir. Voyez-vous ? Ils ont besoin de cette reconnaissance-là pour se sentir exister. Alors, les expositions délibérées à des dangers servent parfois pour eux à la fois de moyens pour faire cesser la souffrance, mais en même temps aussi moyens de se sentir exister en transformant la souffrance psychique plus ou moins indicible, immatérielle, compliquée à décrire, transformer la souffrance psychique en douleur physique ou en sensation forte pour se sentir exister. Un peu comme si, vous voyez, quelqu'un s'enivrait de la vitesse de son véhicule à moto pour sentir qu'il existe en roulant à tombeau ouvert. Vous voyez, comme l'expression aussi parle d'elle-même, en roulant à tombeau ouvert, avec le vent sur le visage, en ayant le sentiment que à travers cette vitesse-là, là, il ou elle se sent exister, ce que certains films ont parfaitement bien rendu, si vous voulez, dans cette espèce d'ivresse du rider de l'impossible qui se jette à corps perdu, comme ça, dans le vide ou dans la vitesse, pour se sentir davantage exister. Donc vous voyez, c'est un espèce de double phénomène. À la fois, faire disparaître la souffrance, d'autre part, se sentir exister à travers des risques qui sont en effet inconsidérés, et ce faisant, avoir le sentiment de reprendre en main son destin. Vous voyez, l'image que je vous donne de celui qui roule à tombeau ouvert en moto, il a en main l'engin. Il n'est pas objet de la vitesse. C'est lui qui agit la vitesse. Et ça, c'est une autre composante qu'il faut avoir en tête chez les adolescents qui vont mal. Ils ont besoin de reprendre possession d'eux-mêmes, ils ont besoin de reprendre la main sur leur destin, parce que sinon, ils se sentent toujours chosifiés, objets des autres, et au sens propre, comme malheureusement aussi au sens figuré, puisque un grand nombre de ces adolescents en souffrance ont été des objets chosifiés, par exemple dans l'abus sexuel, voyez, qui est une des raisons pour lesquels des jeunes viennent au centre Abadie. Une adolescente sur trois qui rentre dans mon service et un garçon sur sept ont été victimes de violences sexuelles. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, pour vous donner une illustration, un exemple, si vous voulez, de trouble, de souffrance qui conduit à l'adolescence à avoir, à un moment donné, le sentiment que cette existence salit, il faut s'en défaire, et s'en défaire à travers des conduites qui vont, en effet, faire rompre les pensées, rompre, faire exister autrement, en substituant aux émotions salies des sensations fortes qui sont des ivresses dans tous les sens du terme et des ivresses qui sont des risques inconsidérés. Est-ce que ça suscite chez vous quelques observations, commentaires, questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Alors, ce que je dois aussi vous dire, c'est que la forme de ces risques pris évolue en fonction des moments, des époques, et aujourd'hui, énormément en fonction de ce qui circule comme information. Et là, force est quand même de constater que, en pleine révolution numérique que nous connaissons tous, nos ados qui sont tous des digital natives et qui utilisent tout le temps ces outils-là ne regardent pas les mêmes informations que nous. Eux, ils sont branchés sur d'autres trucs. Et la vision qu'ils ont de la réalité du monde passe par des filtres qui nous sont souvent inconnus, mais qui sont incroyables. Le 11 septembre n'a jamais existé. C'est une invention de la CIA pour faire un complot au profit de je ne sais quel... Enfin, vous voyez, Et puis ça sort sur Internet en même temps que d'autres trucs. Et donc il y a un paradoxe aussi dans ce fait que on ne les forme plus à comprendre le monde suffisamment. On segmente l'information au profit d'adultes censés, eux, le comprendre, alors que ce n'est pas le cas. Et ça l'est encore moins pour les jeunes. Alors je vous donne un exemple qu'on a fait avec un groupe de parole d'adolescents au centre Abadie. On leur a donné des mots-clés qui sont les mots-clés suivants. Islam, Syrie, Irak, terroriste, djihad, Bruxelles, Paris. Associer ces mots pour leur donner un sens. Ils associent terrorisme et Bruxelles et Paris parce qu'ils ont tous entendu parler de ce qui s'est passé. Ils savent que c'est la guerre en Syrie et en Irak. Et ils sont incapables de donner un sens à ce puzzle. Ils savent tous les mots, mais ils ne peuvent pas les mettre ensemble. Alors là, franchement, il y a un souci quand même. Et ce souci, je crois que c'est cette espèce de période qui est à la segmentation, à la démultiplication des informations au détriment des explications. Et c'est pour ça aussi que dans mon livre, je suggère la création d'un cours de critique numérique qui ne pourrait pas forcément être donné seulement par des profs, mais peut-être par des journalistes, par des gens, par des acteurs de la société qui viendraient donner leur point de vue et en parler avec les jeunes, parce que ça les intéresse. Une fois qu'on leur explique des trucs, en fait, c'est pas que ça ne les intéresse pas. C'est qu'ils présupposent qu'on va leur expliquer des trucs pour les obliger à se soumettre ou à réciter ou à faire un devoir, etc. Alors évidemment, ils se braquent parce qu'ils n'ont pas envie de se soumettre. Mais si on en discute avec eux, ça les intéresse beaucoup, à condition qu'on leur explique. Et là, il y a vraiment un manque en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment, je crois, un manque important de moments de synthèse, de compréhension, alors même qu'on veut les ouvrir au monde. on les laisse se débrouiller tout seuls en naviguant, vous voyez, on reprend l'image de tout à l'heure, sur l'océan de l'Internet, mais sans phare ni balise. Ils sont laissés livrer à eux-mêmes, et c'est à eux de voir s'ils vont aller s'exploser sur un écueil ou pas, c'est eux qui voient. Eh bien ça, c'est quand même un problème, ça veut dire que c'est un peu une forme d'abandon, si vous voulez, on les laisse se dépatouiller tout seuls avec ça, et ça, c'est pas bon. Et donc, parmi les risques dont vous entendez parler, eh bien, il y a évidemment la surabondance d'informations qui, par exemple, fait que une jeune fille de 15 ans qui est en crise adolescente, qui ne peut plus supporter la vie familiale, qui en veut à fond à ses parents de se séparer, qui se manifeste de plein de manières et qui a l'impression que ça ne provoque rien. Elle ne fiche plus rien en classe, elle ne ramasse que des mauvaises notes, aucun des deux parents pris dans leur déchirure parentale ne vient lui demander s'il y a un souci. Elle a l'impression qu'elle ramène 2 ou 12, de toute façon, ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'elle peut leur faire pour les mobiliser? Elle leur dit, moi je crois que je vais partir en Syrie. Alors tout de suite, ils ne font pas la même tête. Vous voyez, tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et on voit en ce moment fleurir des menaces. Alors, c'est pareil, hein, jusqu'à quel point la menace sera mise à exécution, ça on ne peut pas le savoir. Parce que c'est comme, il y a 15 ans, de dire « je pars en fugue ». Vous me faites trop chier, je vais me barrer de la maison, puisque c'est comme ça. Surtout pas la mettre au défi, hein. Surtout pas lui dire bah, « vas-y, t'es pas capable » ou je ne sais quoi. Mais il faut avoir en tête que donc, l'exposition évolue en fonction en ce moment beaucoup de ce qui circule sur Internet. Et il y a une surabondance d'informations illisible, autrement que, là-bas, au moins, il y a une cause, on va se battre pour quelque chose. Enfin, voyez. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça conduit à des choses qui ne sont pas du tout pensées, qui ne sont pas du tout raisonnées, qui n'ont rien à voir avec l'appartenance, les origines, etc., parce que ça n'est absolument pas forcément des jeunes gens maghrébins, ni musulmans, ni de familles musulmanes qui disent des choses comme ça. C'est des ados qui s'emparent d'un événement, d'une pseudo-cause, en l'occurrence, dont ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'islam, ils ne savent pas ce que c'est que le Coran, ils n'ont jamais ouvert un truc comme ça. Ils ne savent pas. Ils entendent simplement que ça fait peur aux adultes. Donc, c'est efficace. Et je ne sais pas du tout, le jeune de 15 ans qu'on vient de prendre, là, terroriste, je ne sais pas du tout quel genre de jeune c'est, mais je peux supposer que c'est un jeune qui est en crise, en très grande crise identitaire, et qui se saisit de quelque chose pour se donner à lui un sens à sa vie dont il ne parvient pas, par les voies habituelles, si vous voulez, à trouver quelque chose qui soit en cohérence avec lui. On a un certain nombre comme ça de jeunes gens qui s'expriment d'une manière tellement perdue sur le plan identitaire que n'importe quelle cause qui leur donnerait le sentiment de les faire exister serait une cause à saisir. Et il n'y en a pas 36 en ce moment. Et comme les journalistes sont très très friands de ces informations, vous voyez, ça c'est hier, j'avais une chaîne de télé qui voulait que tout de suite je communique sur l'adolescent de 15 ans, alors que moi je ne sais pas qui c'est ce jeune. C'est un adolescent, donc tout de suite, hop, là. Et alors là, ben le risque, c'est de faire flamber des vocations. Donc ça, il faut en parler avec les enfants et les ados. Il faut essayer de, y compris pour soi-même, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut penser de l'évolution du monde, qu'est-ce qui se passe, quels sont... Vous voyez, c'est très important. Car le risque que nous prenons en ce moment, c'est d'avoir une société très avancée qui devient barbare, en ce sens qu'elle n'est plus capable d'avoir des réactions en réalité de vraie démocratie, de civilisation avancée. On est dans l'acte, dans le passage à l'acte. On n'entend pas quelque chose, donc il faut aller dans la rue et on obtient quelque chose si on ne l'a pas par les voies du dialogue et de la discussion, on l'obtient autrement. Tout ça, c'est, si vous voulez, des exemples qui témoignent du peu d'efficience du mot, M-O-T, et de la mise en avant de l'acte, dans tous les sens du terme. Moment dangereux, comme dans toujours quand l'acte prévaut sur la parole. Je vous remercie beaucoup de votre attention.